Est-ce que tu connais la différence entre une idée de génie et une idée de merde? Tu sais, peut-être que toi, t'es du genre à te dire, non, mais j'aimerais tellement avoir pensé à cette idée, ou du genre, oh, non, mais franchement, je pourrais jamais créer un contenu comme le sien. Ou, putain, il a des milliers de vues. Moi, si je crée le même contenu, j'y arriverai jamais. Et donc, tu te dis, non, mais en fait, ce mec-là ou cette meuf, elle a créé un contenu de génie, et c'est parce que c'est quelqu'un qui a des idées totalement ingénieuses et qu'elle est ultra créative. C'est pour ça. Bon, je suis désolé de te dire ça, mais en fait, pas du tout. Si une idée donc est créative, si c'est une idée de génie, c'est pas parce que celui qui l'a inventée est plus exceptionnel que toi. Non, non. Bon, je suis désolé de te casser ce mythe-là, mais non, ça sert à rien d'être intelligent ou d'être beaucoup plus créatif pour être reconnu comme générateur d'idées créatives. Et en fait, pas du tout. Donc ça, je vais te l'expliquer. Donc bah, dans cette troisième et dernière série, donc sur les bases pour être créatif, car je te le rappelle. Pour être créatif, il faut connaître les bases. Et donc, bah, je vais faire comme la dernière fois. La semaine dernière, sur l'épisode de la créativité de la survie, j'avais enregistré comme ça, en mode détente, sans montage, sans rien. Et j'avais juste noté quelques notes pour me servir de trame. Et je vais exactement faire la même chose. Et donc, si tu ne me connais pas encore, si c'est la première fois que tu me découvres, je suis Pascal Roby, je suis auteur et créateur du podcast Les Racines de la Créativité, le podcast pour les créateurs de contenu qui partagent leur histoire, leur vision et leurs secrets sur la créativité. Je fais deux types de podcasts, donc des interviews où je vais interviewer des personnalités qui me touchent par leur créativité ou par leur personnalité, et voilà, et on échange, voilà, généralement 1 heure et demie, mais voilà, tu as des interviews voilà, sur la chaîne qui peuvent monter jusqu'à 2 heures et demie, parce que oui, j'aime bien être bavard. Et bah, tu as des épisodes où je suis tout seul, solo, ou bah, comme aujourd'hui, je partage toutes mes découvertes, toutes mes oui, recherches, on peut le dire, autour du sujet de la créativité. Bah, parce qu'au départ, quand même, quand j'ai découvert la créativité, je vais te donner une image. Imagine le désert du Sahara, tu vois? Donc, une étendue de sable que tu vois à perte de vue. Et remplace le sable par plein de caca. Et bah, tu vois ce désert de caca, c'est exactement ce que j'ai vu quand j'ai tapé le mot créativité sur Google. Un désert de caca. Vraiment, c'est. Chaque fois que je lisais un contenu, chaque fois c'était de la merde. En tout cas, c'est comme ça que je le percevais. Et plus je grattais, plus je trouvais de la merde. Ou que le contenu que je voyais, que ce soit sur YouTube, sur Google, sur Instagram, et même parfois dans certains livres Amazon, je trouvais que c'était de la merde. Pourquoi? Parce que ça ne répondait pas à mes propres questions. Et c'est pour ça que j'ai lancé les racines de la créativité. Pour répondre à mes propres questions et pour me dire, bon, au moins, dans ce désert de caca, je vais faire ma propre merde. Mais j'espère que ça sentira un peu moins la merde que ce que j'ai pu voir aux alentours. Et donc aujourd'hui, on va parler du troisième et dernier type de créativité que j'ai identifié il y a 2 ans, via mon livre Pas besoin d'être artiste pour devenir créatif, la créativité d'inventivité. Alors là, pour le coup, ce serait sympa si tu pouvais écouter les deux précédents épisodes que j'ai fait sur la créativité d'expression de soi et la créativité de survie. Parce que, évidemment, il va avoir un lien avec ces deux types de créativité. Bon, tu peux quand même l'écouter, hein, même si c'est la première fois, il n'y a pas de souci. Je pense que ça reste compréhensible, mais pour avoir une vision globale, ce serait vraiment bien que tu écoutes ces deux précédents épisodes. De toute façon, je te mettrai les liens juste en dessous dans la description. Et bon, avant de commencer, même si on a déjà commencé, n'oublie pas de partager cet épisode sur les réseaux sociaux et asociaux. Mets un commentaire dithyrambique, notamment sur Apple Podcast, puisqu'apparemment c'est le seul endroit où tu peux mettre des commentaires et 5 étoiles, donc un commentaire dithyrambique. Parce que déjà, moi, ça m'aide à me faire connaître, et puis ça peut inviter d'autres gens à écouter ce podcast. Et puis, si tu ne le sais pas encore, si tu veux dire, ouais, si les gens te demandent, ouais, moi je veux bien écouter ce podcast, mais on le trouve où? Bah, tu leur dis qu'il est disponible sur Google Podcast, sur Apple Podcast, sur Spotify, et même sur Deezer. Alors, bon, normalement, et même sur des plateformes improbables que je ne connais même pas. Bon, créativité d'inventivité. Bon, tu m'écoutes, tu fais OK. Pascal, moi je veux bien, donc je t'ai entendu parler par créativité d'expression de soi, je t'ai entendu parler de créativité de survie, mais c'est quoi la créativité d'inventivité? Eh bien écoute, je vais te donner ma définition de la créativité d'inventivité, bah, c'est justement la rencontre entre l'expression de soi et la survie. Entre parenthèses, d'où le fait que je dis que ce serait bien que tu écoutes les deux précédents épisodes. Mais c'est la rencontre entre l'expression de soi et la survie. Quand tu crées une œuvre uniquement pour toi, voilà, imaginons, voilà, tu fais un dessin. Si tu le fais uniquement pour toi, tu es créatif. Par contre, quand tu crées une œuvre et que tu la présentes pour une autre personne, et que cette personne dit Ah, mais j'aime bien ce que tu as fait, là, tu commences à être inventif. Et plus il y a de personnes qui vont être touchées par ton œuvre, plus tu deviendras inventif. Donc, dans cette notion, la notion d'inventivité, il y a cette notion en fait de contact social. Ça veut dire quoi? C'est que non seulement tu crées une œuvre pour toi, mais elle va aussi, enfin, cette œuvre que tu crées, elle impacte ta vie, mais elle va également impacter la vie d'autres personnes, à plus ou moins grande échelle. Si c'est juste un dessin, l'impact, il sera peut-être minime. Ça va peut-être lui faire plaisir, il va être touché d'une certaine manière. Tout dépend de tes talents de dessinateur. Par contre, voilà, plus il y a de personnes, voilà, qui vont être exposées, qui vont être touchées par ton œuvre, plus, ben voilà, elle va être reconnue et donc elle va être reconnue comme inventive et même parfois, elle va devenir intemporelle, enfin incontournable. Exemple d'œuvre inventive. Tu sais, au cinéma, moi j'adore les films et il y a des films que je considère comme cultes. Terminator 2, Alien, tous les films de John Woo, notamment À toute épreuve, The Killer, enfin, Last Action Hero, Rocky 4, à un moment donné, voilà, Rocky 4. Tout ça, enfin, tu vois, toutes ces œuvres, tous ces films dont je t'ai parlé, ce sont des œuvres cultes. On peut même aller dans le milieu de la musique. Michael Jackson, j'ai qui encore? J'ai Dire Straits, Eric Clapton, Metallica, Jean-Jacques Goldman, oui, parce qu'à un moment donné, il faut des gens sérieux. Ce sont des gens, à travers leur musique, à travers leurs œuvres, qui ont marqué des millions et des millions de personnes. Et leurs œuvres sont cultes. Leurs chansons, leurs films sont cultes. Pourquoi? Parce qu'elles ont touché énormément et énormément de personnes. Prenons l'exemple de Goldman, je te dis, voilà, je te donne, tu as déjà les paroles, tu as déjà l'air de la chanson de Goldman dans ta tête. Terminator 2, il y a peut-être même des images ou des répliques que tu as en tête. Ces œuvres sont cultes. Alors, cet aspect social de la créativité, voilà, c'est pas quelque chose que je sors de mon cul comme ça, comme par magie. C'est un aspect qui a été abordé par deux psychologues. Le premier, c'est Mihaly Csikszentmihalyi. Donc, bon, le nom est imprononçable, mais tu connais surtout cet auteur pour son livre Flow, donc Vivre le bonheur au quotidien. Je crois que c'est comme ça que ça s'est traduit en français. Donc, Flow, Flow. Et bon, c'est vrai qu'on le connaît, tu vois, pour ses travaux sur le flow, mais il a également consacré une grande partie de sa vie à l'étude de la créativité. Et c'est lui notamment qui a apporté cet aspect social de la créativité et qui ensuite va être repris par Todd Lubar, qui appelle ça la consommation des œuvres créatives. C'est-à-dire que tu crées une œuvre et derrière, ce que vont observer les psychologues donc spécialisés en créativité, dont notamment Todd Lubar, c'est finalement la façon dont une œuvre est consommée. Et on parle vraiment bien de consommation des œuvres créatives. Et donc ça, c'est ce qui m'a vraiment intéressé, de me dire, ok, non seulement tu es créatif, donc tu crées quelque chose, mais derrière, ce que la plupart des créateurs de contenu appellent, voilà, quand tu crées un contenu, tu dois créer du contenu impactant, voilà, tu dois créer de l'impact dans tes contenus. Et bien finalement, moi j'ai beaucoup aimé finalement cette vision de consommation d'une œuvre créative. C'est la façon dont un public va être touché, mais surtout va diffuser ton contenu. Tu partages ton idée et après, mais comment cette idée va être diffusée? Alors, ensuite, je me suis dit, ok, bon, c'est marrant, j'aime beaucoup cet aspect social de la créativité, mais finalement, comment on devient inventif? Quelles sont les actions qui permettent de développer cette créativité d'inventivité? Alors, dans mon livre Pas besoin d'être artiste pour devenir créatif, j'avais identifié trois étapes, on pourrait même dire trois points vitaux pour développer cette créativité d'inventivité. Aujourd'hui, j'en ai cinq, donc j'en ai rajouté deux. Disons que ce sont deux points qui étaient présents dans mes trois premiers points, mais j'ai trouvé que ces deux points que nous allons aborder prenaient de plus en plus d'importance dans toutes les recherches. Et que je faisais, et surtout que je testais, puisque je suis moi-même un créatif, donc je suis auteur de livres, donc un livre donc sur la créativité, mais je suis également co-auteur d'un roman qui s'appelle Les Gardiens de l'Espoir, je suis également créateur d'un podcast, j'ai écrit des centaines d'articles, et puis bon, à côté de ça, tu vois, je compose un peu de musique, donc bon, on va dire que j'aime bien créer, et les actions là, donc, que je vais te partager prennent de plus en plus d'importance. Donc, je vais te parler des trois premières actions. Donc, les trois premières sont la discipline et l'organisation, le marketing et la vente. Ce sont vraiment les trois premières étapes que j'avais identifiées dans mon livre. Pas besoin d'être artiste pour devenir créatif. Et les deux autres qui prennent de plus en plus d'importance aujourd'hui. Ça s'appelle. En fait, j'ai pas de mot pour l'instant. J'ai pas trouvé de mot. Peut-être que j'en trouverai. Mais c'est finalement, c'est déterminer avec la quatrième étape. C'est donc déterminer avec certitude ce qui est faux et douter de ce qui est vrai. On ira un peu plus loin si tu comprends pas ce que ça veut dire. Je t'expliquerai ce que j'entends. Et la cinquième étape, c'est l'art de savoir bien abandonner. Enfin, c'est l'équilibre entre savoir bien abandonner et le follow-up, c'est-à-dire ta capacité à poursuivre tes actions. Et bon, on en a déjà un petit peu parlé dans la créativité de survie, mais là, je pense que c'est le bon endroit pour en parler. Mais d'abord, revenons au premier des cinq points. Discipline et organisation. Moi, au départ, quand j'ai commencé mes recherches en créativité, je me suis dit, non, mais c'est vrai que je suis plutôt quelqu'un de discipliné et d'organisé dans ma vie. Et je me suis dit, mais ça se trouve, ça n'a rien à voir avec la créativité. Et chose plutôt paradoxale, c'est plus j'ai avancé dans mes recherches, plus j'ai lu de bouquins sur le sujet, et en fait, je me suis aperçu que les gens créatifs étaient également des gens extrêmement disciplinés et organisés. C'est notamment un bouquin qui s'appelle Make Ideas Happen de Scott Belsky. Donc Scott Belsky, au départ, lui, c'est un ancien trader, donc il travaillait dans la finance. Donc rien à voir avec le milieu de la créativité, mais c'est un sujet qui le fascinait, donc il allait interviewer des gens qu'il considérait comme créatifs, notamment des designers. Donc je ne me souviens plus de son nom, mais il a notamment été interviewé le designer d'Apple. C'est celui qui a designé l'iPod. Et il a également interviewé des gens comme Seth Godin, un des pères du marketing moderne, tel qu'on le connaît aujourd'hui. C'est notamment, donc Seth Godin, c'est notamment l'auteur du livre La Vache Pourpre ou Permission Marketing. Et donc, bah, son bouquin est divisé en trois parties. Tu as la première partie qui s'appelle Organisation, la deuxième partie qui s'appelle Leadership et la troisième partie qui s'appelle Communauté. Et ce qui est assez intéressant dans son livre, c'est que quasiment la moitié de son livre est consacré à l'organisation. C'est pour te dire à quel point l'organisation c'est vraiment important quand tu veux devenir créatif, mais surtout quand tu veux devenir inventif. Et inventif, ça veut dire être reconnu par d'autres personnes. Et ça, c'est ce qui m'a un peu fasciné, c'est que finalement, tu as besoin d'être organisé, d'être discipliné pour avoir en fait pour devenir inventif. Et c'est moi, c'est vrai qu'à partir de cette idée de discipline et d'organisation, je me suis dit, mais ok, en fait, ce qui compte, en fait, on peut être créatif même dans l'organisation, la discipline. Et en plus de cela, cette discipline, cette organisation te permettent de devenir encore plus créatif. C'est un cercle vertueux, c'est génial. D'où l'idée de créer des systèmes qui te permettent de créer et de sortir régulièrement de nouvelles idées. Donc c'est vrai que dans mon livre, je parle beaucoup de Jean Rivière, voilà, qui m'a beaucoup inspiré, notamment dans cette façon de créer des systèmes qui te permettent de générer des résultats sans que tu y penses. Ça, c'est voilà, c'est quelqu'un qui m'a beaucoup influencé sur cette capacité de créer des systèmes. Et je t'invite également, voilà, si tu veux aller beaucoup plus loin, à t'interroger, oui, et à t'intéresser à la pensée systémique, l'approche systémique en règle générale, notamment sur l'approche système. Ça, c'est quelque chose de très important. Enfin, ça mériterait un épisode entier, mais voilà, une des actions pour devenir vraiment beaucoup plus inventif, c'est la discipline et l'organisation. Voilà, j'ai déjà fait plein d'épisodes autour de ça. Tu as également mon livre, mais il y a plein de choses qui te permettent aujourd'hui d'être beaucoup plus discipliné et organisé. Je ne te donnerai pas des ressources parce que ma façon d'être discipliné et d'être organisé est totalement Pascal compatible. Et comme elle est Pascal compatible, bah elle n'est pas compatible avec toi, ni avec un autre, ni avec personne. Parce que c'est ma propre vision, ma propre organisation, ma propre discipline que je mets en place tous les jours. Donc là, en fait, ça t'oblige à faire quelque chose de très désagréable, c'est de penser par toi-même et de devenir autonome. Ça, tu vois, ça fait pas forcément partie de l'inventivité. C'est peut-être plus quelque chose qu'on pourrait mettre, tu vois, dans l'expression de soi, mais c'est super important pour toi de penser par toi-même et pour toi-même. Donc, voilà, petite digression. Crée tes propres systèmes. Crée ta propre organisation. Crée ta propre discipline. Premier point. Deuxième point. Alors, je te disais en début d'épisode, une idée de génie, qu'est-ce qui différencie une idée de génie d'une idée de merde? En fait, c'est même pas le contenu. Tu vois, il y a des gens qui disent, non, mais tu sais, des gourous du web notamment, qui disent, non, mais tu sais, tu dois apporter énormément de valeur ajoutée. Non, en fait, on s'en fout de la valeur ajoutée. En fait, ça vaut rien, quoi. Donc, la valeur ajoutée, c'est juste une émotion que tu génères chez les gens. Ce qui compte, c'est que ton idée, elle soit connue et reconnue. Et la deuxième action qui permet de devenir inventif, c'est le marketing. Le marketing, c'est quoi? Le marketing, c'est tout simplement de la communication. Tu peux avoir la meilleure idée du monde, mais si personne ne la connaît, ton idée, c'est de la merde. Donc le plus important pour toi, pour devenir inventif, c'est de partager ton idée et d'exposer cette idée. Et bon, le problème derrière, si tu veux dire, ouais, mais bon, je veux bien exposer mon idée, je veux bien exposer mon œuvre, mais j'ai peur du jugement. Ouais. Mais à un moment donné, si tu veux vraiment devenir inventif, tu n'as pas d'autre choix que de te confronter à la réalité. Et ça, c'est le troisième point. C'est le troisième point, donc ce que j'appelais détermine avec certitude ce qui est faux et douter de ce qui est vrai. À partir du moment où tu partages ton idée, donc tu l'exposes au plus grand nombre grâce à ton marketing, au fait que tu communiques tes idées, à un moment donné, tu vas rencontrer des murs. Voilà, tu vas rencontrer des murs. Il y a des gens qui vont dire j'adore ton idée et d'autres qui vont dire non, mais ça c'est une idée de merde. Alors c'est bien de dire que c'est une idée de merde, mais toi derrière, tu dois aller vérifier en quoi mon idée c'est de la merde. Et donc là, c'est super important d'avoir du feedback, donc du retour d'expérience. Tu dis, écoutez, voilà, je vous ai partagé mon contenu, je vous ai partagé mon produit. Ok, qu'est-ce qui est nul, qu'est-ce qui est à chier, quoi? Qu'est-ce que vous avez détesté? Et au lieu de demander aux gens, non, mais qu'est-ce que vous avez aimé? Bon, c'est cool, ça fait toujours plaisir. Mais là où tu vas vraiment avancer et devenir vraiment inventif, c'est quand ton audience, le public à qui tu proposes ton œuvre, va te dire non mais j'ai pas aimé parce que. Parce que là, quand les gens te disent non mais ça c'est de la merde parce que, c'est là où t'as où tu vas trouver les plus grosses pépites pour progresser. C'est là où les gens vont te dire ah ouais non, mais moi j'ai pas aimé parce que il me manquait ça, il me manquait ça, il me manquait ça, ce n'était pas comme ça, ce n'était pas comme ça, etc. 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 Et bon, ça fait mal à l'ego hein, de dire non mais t'as fait de la merde, ça fait jamais plaisir. Mais en même temps, c'est ce qui permet de progresser. Ça permet de percer l'illusion de se dire ouais, j'ai fait quelque chose de bien. Non, non, c'est super important de percer l'illusion que tu. Enfin, et de t'apercevoir que t'as fait de la merde. C'est plus important que tout le reste. D'où le fait que je dise détermine avec certitude ce qui est fou et de douter de ce qui est vrai. Parce que tu peux jamais être sûr de ce qui fonctionne. Et les gens, ils partagent leurs trucs. Et tu leur demandes, mais comment t'as fait? Ils te donnent les étapes qu'ils ont réalisées. Toi, tu retentes de faire la même chose, mais t'as pas le même résultat. Il dit, mais attends, c'est bizarre. J'ai appliqué exactement ce que m'a dit mon gourou préféré, ça marche pas pour moi. Pourquoi? Bah déjà, t'as pas la même expérience que lui, t'as pas le même vécu, t'as pas les mêmes connaissances, t'as pas la même histoire. T'as pas le même environnement. Le gars, il partage ses étapes, mais t'as peut-être toutes les étapes pour que lui réussisse. Mais est-ce que toi, est-ce que t'as toutes ces conditions à lui pour que tu réussisses? Ah, je suis désolé de te dire ça, mais non. Parce qu'il peut te donner la liste qu'il a, enfin, toutes ses étapes à suivre. Si toi, derrière, t'as pas toutes les conditions pour réaliser ce que lui a réalisé, t'auras jamais le même résultat. Prenons un exemple concret. Recette de gâteau. Tu prends une recette de gâteau de Cyril Lignac. Si t'as pas les mêmes ingrédients que Cyril, enfin, si t'as pas, oui, les mêmes ingrédients, mais surtout, si t'as pas les mêmes outils pour cuisiner, si t'as pas le même espace, si t'as pas la même expérience que lui en cuisine, évidemment. T'auras jamais le même gâteau que Cyril Lignac. Alors, ça ressemblera jamais, ça n'aura pas l'aspect visuel ni le goût d'un gâteau fait par Cyril Lignac. Ben, c'est pareil en entrepreneuriat, c'est pareil en créativité, c'est pareil en musique, c'est pareil partout. Ben, sauf que la plupart des gens n'arrivent pas à le voir. Ben, moi, je te le dis, hein, donc, tu dois déterminer avec certitude ce qui est faux, et quand ça fonctionne, te dire ok. Qu'est-ce qui a bien pu fonctionner? Ben voilà, je sais que tu sais que t'as voilà certaines choses qui ont été bonnes. Ben, tu continues, mais toujours. Moi j'aime bien douter. Moi je suis un gars, j'aime bien me poser des questions alambiquées, mais c'est dans ma nature. J'aime bien. Moi j'aime bien faire ça parce que je sais que ça c'est quelque chose qui va me permettre d'avancer. Premier point, discipline et organisation. Deuxième point, le marketing. Troisième point, déterminer avec certitude ce qui est faux et douter de ce qui est vrai. Quatrième point, on va revenir un peu sur l'aspect marketing, mais surtout avec la vente. C'est super important de vendre tes idées ou tes œuvres créatives. C'est super important. Parce que ben, c'est la suite logique du marketing, c'est bon ok, je me fais connaître, les gens me disent c'est de la merde, ben, il n'y a pas de problème. On va recommuniquer là-dessus et on va vendre le fait que, ah non, mais par rapport à la version 1.0 que je vous ai présenté la dernière fois, celle-là, elle est différente. Et là, tu vas pas avoir d'autre choix que de convaincre et de persuader ton public que la nouvelle idée, la nouvelle œuvre que tu vas proposer, elle est totalement différente de la première. Et surtout, ben, qu'elle correspond beaucoup plus aux attentes de ton audience, de ton public ou de tes clients. Donc la vente, c'est super important. Tu n'as pas d'autre choix que de vendre tes idées. Et d'ailleurs, enfin, tu vends tout le temps. Et bon, là encore, on pourra en faire un podcast. Je t'invite également à écouter les podcasts avec Pamela Oudard-Barbé et Alexandre Vaquier. Voilà, deux commerciaux, deux coachs commerciaux. Donc, je t'invite à réécouter ces podcasts par rapport à la vente, parce que c'est super important. Quatrième point, la vente. Et le dernier point que je voulais évoquer avec toi pour devenir beaucoup plus inventif, c'est l'art donc de c'est l'équilibre entre savoir bien abandonner et le follow-up. Qu'est-ce que j'entends? À un moment donné, donc tu testes tes idées et tu les confrontes au réel. Donc tu balances tes idées, tu vois ce que ça donne. Bon, les gens sont réactifs, bon, les gens sont pas réactifs, ok, bon, pas grave. Tu testes, tu tires des leçons et bah, tu recommences, et ainsi de suite. Et tu fais cet aller-retour entre bah, donc, tes idées, donc toi, ce qui gamberge dans ta tête, créativité d'expression de soi, et tu balances ça dans le réel. Créativité de survie. Hop, tu balances ça au marché. Et bah, tu essayes de voir si tu as des feedbacks, si ça touche des gens. Il faut, voilà, il faut trouver le bon équilibre entre follow-up et bien savoir abandonner. Le follow-up, donc, il y a une citation de Thomas Edison, tu la connais peut-être, c'est la créativité, c'est 1% de génie et 99% de transpiration. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que bah, de toute façon, tu n'as pas le choix. Tu es obligé de revenir sur l'ouvrage et de continuer à avancer, de tester, d'échouer jusqu'à ce que bah, tu obtiennes de vrais résultats. Le follow-up, donc c'est-à-dire vraiment continuer, continuer, continuer. Et puis il y a aussi l'art de bien savoir abandonner. Et qu'est-ce que j'entends par l'art de bien savoir abandonner? C'est, je l'ai déjà expliqué la semaine dernière, mais je vais te le refaire une redite. C'est, tu dois être capable de savoir tuer et abandonner tes idées. Si ton idée elle est nulle, bah, il faut que tu ailles la tuer tout de suite, le plus rapidement possible. C'est exactement pourquoi je mets dans voilà, la troisième étape, déterminer ce qui est faux de ce qui est vrai. Parce que en te crachant tout de suite dans le réel, ton idée, bah là au moins tu sais si c'est une idée de génie ou si c'est une idée de merde. Et là au moins, tu peux abandonner plus rapidement une mauvaise idée pour te consacrer potentiellement à une bien meilleure idée. Est-ce que ce sera une bonne idée? Tu ne le sais pas, mais ce sera forcément une meilleure idée que la première idée que tu as eue. Au moins tu testes. Et tu te dis, bon, c'est de la merde, c'est pas grave, je peux l'abandonner et je peux passer à autre chose. Alors, qu'est-ce qui te va te permettre d'abandonner une mauvaise idée? Il y a deux points, et ça vient de l'approche systémique où j'ai compris ça, comment tu peux abandonner. C'est déjà, est-ce que tu utilises la bonne méthode pour créer ton idée? Est-ce que tu ne dois pas changer de comportement, changer d'outil, changer d'habitude? Pour bah, avoir un résultat différent. Est-ce que voilà, dans la façon dont tu génères tes idées, bah, tu ne devrais pas modifier la façon dont tu crées tes idées. Ça, c'est en approche systémique, on appellerait ça un changement de type 1. Ou bien, tu as le changement de type 2. Le changement de type 2, c'est quoi? C'est, ok, je crée une œuvre créative. Un contenu, une chanson, un livre. Mais est-ce que je le crée dans la bonne énergie, dans la bonne optique? Est-ce que les valeurs et le but recherchés dans cette création sont bien les bonnes? Et ça, bon, ça demande un travail d'introspection, ça demande un travail beaucoup plus profond. Souvent, bah, quand tu veux faire un changement de type 2, tu as souvent besoin d'un coach qui va te permettre d'identifier mais quel est le vrai but que tu cherches à accomplir bah, derrière la création d'une œuvre. Ça, voilà, ça peut être un coach, ou bien bah, c'est beaucoup d'introspection, de questions que tu dois te poser, bon, dont notamment le fameux pourquoi. Personnellement, moi je préfère on va dire le concept d'intention de départ. C'est-à-dire. Quand tu cherches à créer quelque chose, c'est quoi ton intention de départ? Et je trouve que c'est beaucoup plus spécifique que de dire, ok, mais il faut que tu connaisses ton why, tu vois. Et non, mais c'est super important de connaître ton why, ton pourquoi. Moi, quand j'entends ça, je fais, non, mais ferme ta gueule, moi, ça me parle pas, le pourquoi. Moi, la première chose que j'ai envie de te poser, c'est pourquoi, mais pourquoi t'es con, arrête de me faire chier, quoi. Donc, le pourquoi ne me parle pas. Par contre, quand je pose la question, c'est quoi ton intention de départ? Ça, c'est une question que j'ai repérée grâce à David Lefrançois, où en fait, il parlais avec un ami qui avait envie de divorcer. Et il lui a posé ce. Tu vois, il dit, oh, j'en ai marre, je crois que je vais divorcer. Ok, c'est cool. Mais dis-moi, je voudrais te poser une question. Quand tu t'es mis avec cette femme, c'était quoi ton intention de départ? Et là, en général, ça pique. Parce que c'est là, en général, que tu vas aller trouver les racines de ta motivation, de ce qui t'a donné envie de te lancer, tu vois, en relation avec cette femme. Ou par rapport à quand tu t'es lancé dans la création d'une œuvre, que ce soit un livre, un contenu, c'est quoi ton intention de départ? Quand tu crées ce contenu, ton intention de départ, est-ce que c'est servir ton audience? Ou est-ce que c'est rassurer ton ego? Et voilà, te dire, ouais, c'est bon, je vais peut-être aussi caresser mon syndrome de l'imposteur. Qui tu sers en premier? C'est quoi ton intention de départ? Donc super important donc, sur l'art de bien savoir abandonner. Donc deux façons d'abandonner, c'est est-ce que tu dois changer le comportement, la méthode, l'habitude qui te permet de créer du contenu? Ou bien est-ce que tu dois pas changer, identifier la vraie raison, la vraie intention de départ? Est-ce que finalement, ce que tu. Voilà, l'intention de départ que tu avais, c'est un faux désir. C'est, ouais, j'ai envie de créer du contenu. En fait, la vraie raison, c'est que j'ai besoin de caresser mon syndrome de l'imposteur. Voilà, ça c'est super important. Et on va terminer, tu vois, cet épisode avec un exemple concret, voilà, d'inventivité. Et cet exemple, c'est le film Justice League de Zack Snyder. Alors, je vais te parler du film Zack Snyder, tu vois, de ce film de Zack Snyder, parce qu'il a une histoire particulière. Il a vraiment une histoire particulière, c'est que, pour le coup, moi je considère vraiment que Zack Snyder est un putain de génie, c'est un très grand réalisateur, et lui, pour le coup, il est inventif. Lui, c'est vraiment un cinéaste inventif. Pourquoi? Parce que, lui, au départ, donc, il avait son imagination. Lui, ce qui a nourri son imagination, ce sont les comics. Donc, notamment DC Comics, Batman, Superman, Green Lantern, Wonder Woman. Lui, il connaît voilà, les comics, donc les BD comics de ces super-héros-là. Lui, ça a vraiment forgé son imagination, ainsi que derrière ben, des films et une culture cinématographique. Comme on a pu le voir déjà via 300, Watchmen, Sucker Punch, L'Armée des Morts. Donc là, il y a ce que j'appelle sa créativité d'expression de soi. C'est tout ce qui nourrit son imaginaire et tout ce qui va forger son identité de cinéaste. Derrière, il y a la. Tu as la, donc le marché, l'industrie du cinéma. Et donc on lui propose, ok, Zach, on te propose de faire une. Trois films autour des super-héros DC Comics. Le gars, il fait « Ouais, vas-y, banco, j'y vais. » Donc, il regarde son marché et il se dit « Ok, bon. » Il voit comment on fait des films. Il a fait des films avant. Donc, il connaît les rouages, il a l'habitude. Et donc, il va peaufiner sa façon de réaliser des films. Man of Steel, Batman vs Superman, et puis bah, Justice League. Le truc, ce qui s'est passé, c'est que pendant la réalisation de ce film, il a malheureusement perdu sa fille adoptive et il était tellement bouleversé qu'il n'a pas pu aller jusqu'au bout du film. Il a dû abandonner, puisque forcément, vu cette période, c'est compliqué d'aller au bout d'un film. Et c'est un autre réalisateur qui a fini le film, donc c'est Joss Whedon. Et donc finalement, bah. Le film qui est sorti en 2017 ou 2018, c'est en fait une version cutée. Une version cutée où il y a des plans du film donc de Zack Snyder, mais la fin a été tournée par Joss Whedon. Et ce qui s'est passé, c'est que tu as des millions de fans sur Twitter et sur la toile qui se sont mobilisés pendant des années pour dire non, non, mais nous, on veut la Snyder Cut, c'est-à-dire la version de Zack Snyder, la vision de Zack Snyder. Les gars se sont battus pendant plus de 3 ans et ils ont eu gain de cause parce que le 18 mars 2021 est sorti sur les plateformes vidéo la Snyder Cut, qui est une version de 4 heures. Donc la version de Joss Whedon en 2017 faisait 2h30, là cette version faisait 4 heures. Donc ce qui était inimaginable, une version de 4 heures d'un film, et en fait cette version du film a cartonné. Malgré, tu vois, tous les obstacles, c'est une version qui a cartonné. Et je peux te dire que maintenant, aujourd'hui, Zack Snyder, il n'a pas une armée des morts, mais il a une armée de fans qui lui, voilà, qui maintenant lui est fidèle. Maintenant, il peut vraiment créer ses films et il est sûr que bah, il a son armée de fans et il est tranquille, quel que soit le film qui va sortir, il y aura toujours son armée de fans qui va toujours le soutenir derrière. Et ça, c'est un exemple que je voulais te partager par rapport à l'inventivité. Parce que finalement, il a tout respecté. Quand il a fait ses films, il a respecté les règles du jeu de l'industrie du cinéma et il a pourtant mis sa patte. Parce que quand tu vois un film de Snyder, que ce soit déjà dans 300 Watchmen ou ben, Justice League, il a une signature visuelle. Tu le reconnais parmi les autres réalisateurs. Il a partagé sa vision. Il connaît voilà les règles, donc il connaît l'industrie du cinéma. Donc il connaît bien ce monde-là. Et finalement, tu vois, malgré les années, bah, il a pu réussir, notamment grâce à Justice League, il a pu sortir la vision qu'il avait. Et c'est ça qui le rend inventif, qui fait que maintenant il a des millions et des millions de fans à travers le monde. Et voilà sur bah voilà avec quoi je voulais terminer cette série donc de 3 épisodes sur bah, la créativité, les bases pour devenir créatif. Voilà, j'espère que cet épisode t'a plu. Si cet épisode t'a plu, bah, abonne-toi aux Racines de la Créativité si c'est pas fait. Abonne-toi à ma newsletter qui se trouve juste en dessous. Je te dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Salut!